Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Samuel Laurent et je suis psychologue, je suis spécialisé dans le travail et la santé. J'ai un cabinet libéral comme ce que vous pouvez imaginer en termes de psycho et dans la culture populaire. Et j'ai une entreprise où j'interviens dans des entreprises, dans tout ce qui est prévention des risques psychosociaux, stress et burn-out. Et par ailleurs, je suis pasteur d'une église dans le Grand Est, enfin non, dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, d'où la question du comté, du vin jaune et toutes ces bonnes choses. Et bien, entre théologie et psychologie, on a réfléchi, notamment avec mon épouse, sur la question de notre planning, du temps, de la temporalité de nos vies. Alors, à la base, l'exposé devait être à deux voix. Mais en fait, c'est quelque chose qui est plutôt lié au travail et à l'activité. On y a réfléchi et mon épouse là actuellement profite à un autre atelier et du coup me laisse la charge de vous transmettre ce que l'on a préparé tous les deux et j'espère le plus fidèlement possible pour que vous puissiez être édifiés et avoir une vraie réflexion par rapport à ce temps qui coule inlassablement dans nos vies, qui ne s'arrête jamais jusqu'à notre décès, et qui parfois nous mène, eh bien, à des situations de questionnement, de souffrance, d'épreuves et de réflexion. Dans un temps où peut-être les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître, lorsque vous voulez commander quelque chose qui n'était pas dans un magasin, eh bien, on avait des gros catalogues assez épais, et à la fin, il y avait un bon de commande. On le remplissait bien sûr à la main. Il n'y avait pas d'ordinateur. On envoyait cela par la poste avec un chèque. La lettre, le courrier, mettait une semaine avant d'arriver à l'entreprise. Et ensuite, on recevait eh bien, nos meubles, nos matelas ou ce que vous voulez au bout d'à peu près 6 semaines. Et dans notre tête, on se disait, ah non, mais c'est vachement rapide en fait. C'est super bien, c'est commande par correspondance, c'est tellement pratique. À main levée, qui a Amazon Prime? Ok. Avec Amazon Prime, lorsque, au bout de 48 heures, on ne reçoit pas ce que l'on veut dans notre boîte aux lettres, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais c'est un scandale. C'est quoi ce service que j'ai payé et je n'ai pas ma denrée au bout de 2 jours? Et effectivement, en tant qu'être humain, ce qui nous entoure en termes de monde matériel influence sur notre manière de percevoir le temps. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de cette question de la temporalité au travers de nos plannings. Et voici un petit planning. Peut-être que vous reconnaîtrez tout ou partie, c'est absolument fictif. J'ai pris quelques éléments de chez moi et d'ailleurs. Et 6 heures pour les plus courageux. Qui se lève à 6 heures ici? Ouais, quand même, hein. Et ça cause, hein. Et là, on est fiers. Est-ce que vous n'êtes pas fiers de vous lever à 6 heures, hein? Nous, on est des bonhommes, hein. Parce que quoi? Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, évidemment. 6 heures, évidemment, on commence par le plus important, le plan de lecture. Oh là, oh le silence. Ou pas, je sais pas. Et ensuite, quelque chose qui n'existait pas à mon époque et qui n'existe toujours pas, me concernant, une skincare. Ok. Une petite routine matinale. Et ensuite, cours, travail, devoirs, repas, sport, faut bien s'entretenir, douche, dodo. Et on recommence. Plan lecture, skincare, routine matinale, devoirs, travail, repas, encore des devoirs, douche, dodo. Et on rajoute de la musique, du sport, de la détente, des écrans, quelques bonnes séries télé. Des jeux de société, des sorties, groupes de jeunes, etc. Et on remplit petit à petit ce planning, ces quelques heures de conscience que l'on a durant la journée. Sauf que, ben, en fait, tout se passe pas forcément comme on l'entend. Débouchons sur la route et voilà 1 heure de gratter par rapport à nos devoirs de prévu. On se lève, quelques notifications sur votre téléphone, quelques shorts TikTok et nous voilà happés. Qui a TikTok à lever de main? Ah, c'est plus timide, hein. On en a presque honte, hein, de ça, hein. Et ça, c'est sans compter ceux qui n'osent pas lever la main parce que les parents ne sont pas au courant et qu'on l'a installé d'une manière un peu frauduleuse. quelques discussions avec des amis sur WhatsApp ou autre, et voilà 2 heures qui partent. On avait prévu une grasse matinée jusqu'à 10h, mais en fait, on n'a pas prévu le réveil, et du coup, la grasse mat s'étend jusqu'à midi, parce qu'en fait, on a un peu prolongé le vendredi soir, et du coup, on s'est plutôt couché à 2h du matin qu'à minuit. Le dimanche, on se réveille, petite discussion au lieu du plan de lecture, et finalement, alors que le dimanche, on se dit, allez, on commence la semaine avec de bonnes habitudes, eh bien, vient dans notre tête notre cerveau qui nous rappelle qu'on a des devoirs, projets ou des éléments à faire pour le lundi. Et nous voilà de nouveau devant un ordinateur jusqu'à 22 ou 23 heures le soir. Je suis sûr que pour l'un ou l'autre exemple, ça vous rappelle quelques éléments. Et du coup, dans tous ces éléments, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à nos activités en tant que travail et en tant que repos et ressourcement. On a été créé pour travailler et pour être actif. Et on est des champions pour pouvoir remplir un planning comme celui que je vous ai montré. Et on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre pour pas mourir trop vite, un équilibre pour tenir sur la longueur, mais le plus important de toutes les raisons, un équilibre pour rendre gloire à Dieu dans notre manière d'agencer notre planning. Et cette phrase, peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez. Moi, je crois que tout est spirituel et que la gestion de notre planning, la manière dont on regarde un GP Moto ou qu'on lance une partie sur League of Legends, a un rapport à Dieu. Dieu a un avis sur tout, donc rien n'est exempt de son point de vue. Et on va essayer de réfléchir ensemble sur cela. Quelques éléments par rapport à ça. Par rapport à cette session. Ne notez pas frénétiquement tout ce que je vais dire. Moi, je suis blogueur surtout pour sa gloire, et je suis toujours étonné du nombre de personnes qui connaissent ce blog. Et en fait, tous les éléments que je vais vous dire là, en fait, toutes ces ressources seront disponibles à moyen terme sur le site, que ce soit mes notes, que ce soit quelques podcasts, etc. Donc, essayez de réfléchir par rapport à votre vie personnelle sur les différents outils que je vais vous proposer, sur cette grille de référence que je vais vous proposer, et j'espère qu'elle vous sera utile pour discerner la question de l'activité, du repos et du ressourcement, avec 4 éléments, même si, a priori, le 4e, on n'aura pas le temps de le voir, mais c'est pas grave. Le premier, c'est de définir ce que c'est qu'un excès d'activité et définir comment est-ce qu'on transforme un divertissement en activité. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre si précaire entre notre travail et notre repos. Le troisième, ça va être quelques éléments pratiques pour pouvoir se débrouiller avec tout ça, quelques réflexions théologiques à ce sujet. Et enfin, comment réagir lorsqu'on est dans la souffrance ou dans l'échec face à ce planning qui est parfois plus une prison qu'une manière de rendre gloire à Dieu. Allez, d'abord, la question de l'excès d'activité. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles si vous en avez. Et on va prendre Luc 12, les versets 16 à 21. A priori, un texte que vous connaissez, ou en tout cas que vous avez déjà entendu. On ne va pas se lire de l'Ésaïe ou de l'Ézéchiel. Ça, on laisse ça aux profs de l'IBG. On va réfléchir à des textes pas trop compliqués, en tout cas qui nous parlent par rapport à notre planning. Luc 12, les versets 16 à 21. Une parabole de Jésus. Je lis. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, « Mais que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et voilà un texte qui parle d'une grande tragédie. Quelqu'un qui a de nombreux biens, mais malheureusement qui ne reconnaît que sa compétence, que sa réussite, sans se rappeler que Dieu est à l'origine de tout et qui décide, malgré sa richesse, malgré ses biens, malgré tout ce qu'il possède, eh bien, de continuer dans son ambition en ne pensant qu'à une seule chose, son avenir probable. Tout ce qu'il pourra faire, tout ce qu'il va pouvoir expérimenter et vivre. Et la tragédie, elle est là. C'est que Dieu, parfois, est ironique dans nos vies. Et il lui rappelle son égoïsme, sa mauvaise vision de la vie et combien il a gaspillé ce temps. Alors, bien sûr, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas des greniers. Okay. Mais je suis sûr que 100% d'entre vous, vous pensez à votre avenir. Comment est-ce que vous pensez à votre avenir? Et comment cette pensée a un impact dans votre présent? Ici, qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il est immortel. Il y a ici une illusion de contrôle et de sécurité sur sa vie. Il pense qu'il a tout en son contrôle. Il pense qu'il est en sécurité. Et donc, il projette, sans se rappeler malheureusement, qu'il n'est qu'une créature. Sans se rappeler qu'il n'est pas dans son monde où c'est lui qui décide, mais dans le monde de Dieu. Et vous voyez dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est que l'homme n'est pas blâmé pour ses richesses en tant que tel, mais dans sa motivation à les acquérir. Son excès d'activité ici est tourné vers un avenir glorieux, parfait, orchestré et préparé pour quoi ? Pour l'honneur et le confort de l'être humain. Cet être humain qui oublie, alors qu'il est projeté vers l'avenir, il oublie même de se réjouir du présent et de ce qu'il vit sur le moment même. Plutôt que de reconnaître les bienfaits que Dieu lui accorde dans sa vie le jour où il pense à cela, eh bien, il ne cherche qu'à se projeter vers l'avenir. Voilà un exemple tragique que nous montre la parole de Dieu dans ce qu'est un excès d'activité. Et maintenant, prenons un autre passage dans l'Ancien Testament. C'est Proverbe 6, les versets 6 à 11, où là, on va plutôt aller de l'autre côté par rapport à la question du divertissement, de la tranquillité, de la fainéantise. Chapitre 6, les versets 6 à 11. « Va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, à juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. » N'est-ce pas là encore une tragédie? Et ici, le déficit d'activité est vu comme quoi? Comme la fuite du réel. C'est le refus de l'effort et le désir d'être tranquille, sans tension, sans responsabilité. C'est la recherche d'un confort permanent et d'une tranquillité sans finalité. Mais cette recherche de plaisir sans effort, eh bien, va le conduire à l'appauvrissement, matériel, relationnel, mais aussi existentiel. La personne paresseuse finit par perdre le goût de l'effort, puis le sens même de sa propre vocation. Et on n'est pas là sur une théologie du repos, mais juste pour mettre cette réflexion dans votre tête, le repos dans la Bible n'est jamais une question d'absence d'activité, mais des éléments qui sont faits d'une manière différente. Parce que ne pas avoir d'activité est tourné vers un avenir sans accroc, sans responsabilité, sans risque. Alors que l'excès d'activité peut nous noyer dans le monde, le déficit d'activité peut nous faire fuir le monde. Alors du coup, comment on fait? Ou d'un côté, Dieu nous demande d'être hors du monde, mais dans le monde. Eh bien, on va voir comment on va pouvoir maintenir cet équilibre, cette intégrité entre, d'un côté, eh bien, cet excès d'activité qui nous mène à l'idolâtrie de nous-mêmes, et de l'autre côté, cette absence d'activité qui nous fait négliger les responsabilités que Dieu nous accorde dans nos vies. Vous savez, en psycho, on étudie ça depuis très très longtemps, la question de l'activité. Et ce qui est absolument indiscutable, c'est que les gens qui travaillent ont une bien meilleure santé que ceux qui ne font rien. Et peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes, alors en général plutôt âgées, qui se fracturent quelque chose, okay, et qui doivent faire de la rééducation et qui sont immobilisées pendant un temps. On sait très très bien que malheureusement, si on ne sollicite pas immédiatement la personne dans de la rééducation, si on ne sollicite pas la personne à faire des efforts et parfois souffrir pour de nouveau remarcher, remonter les escaliers, etc., eh bien, il y a souvent un phénomène de glissement qui fait que il peut y avoir des séquelles permanentes jusqu'au point où la personne peut terminer en fauteuil roulant alors qu'à la base, il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne puisse pas remarcher de nouveau. C'est le fonctionnement de base de notre corps. Plus le corps va être utilisé, plus il aura tendance à se renforcer. Plus vous n'allez pas utiliser certaines fonctions de votre corps, moins votre corps va les solliciter, et donc plus vous allez perdre en compétences, en motivation, et du coup perdre beaucoup de choses malheureusement, et mettre du temps parfois à les réacquérir. Équilibre entre travail et repos. Genèse 1 et 2. On va pas les lire. C'est des textes que vous connaissez. Dès les premières pages de la Bible, Dieu crée un monde qui est pleinement bon. Et le bon, il est important dans cette question de la création. Genèse 1, 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela a été très bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Chapitre 2, il façonne une terre qui est belle, fertile et abondante. Il plante un jardin, verset 8, il y fait pousser des arbres agréables à la vue et bons à manger, verset 9, crée des rivières scintillantes, des pierres précieuses, verset 12, et confie à l'homme une mission, le cultiver et le garder, au verset 15. Quand on s'imagine le jardin d'Éden, lorsqu'il y a des dessins qui sont faits, des peintures, ou des dessins pour enfants, etc., dans des albums, eh bien, c'est rarement des images en noir et blanc, tristes, mortes, macabres, non. C'est quelque chose qui est vivant, rempli de couleurs, et on voit même des descriptions avec de l'abondance, du plaisir, de la joie. Il y a quelque chose de réjouissant dans la création de ce jardin où tout est bon et très bon. Premier point, le plaisir n'est pas suspect dans la Bible. Le plaisir n'est pas suspect. Il fait partie du projet initial de Dieu. Ce que nous pouvons vivre comme plaisir sur la terre sont pour beaucoup d'innombrables reflets de la bonté et de la grâce de Dieu. Et ça, c'est important parce que ça doit aussi nous écarter d'une vision parfois austère de la vie chrétienne qui devrait être que souffrance, labeur, martyr, effort, etc. Non, quand on voit la description du jardin, quand on voit la vocation que Dieu confie à l'être humain au travers de son mandat, on voit qu'il y a quelque chose de stimulant, d'excitant et de réjouissant dans ce que Dieu confie à l'être humain. Et alors aujourd'hui, on n'a pas que des jardins, mais on a aussi des villes, on a de la technologie, on a plein d'éléments culturels que l'être humain a construits au fur et à mesure. Et je crois, et même je suis intimement convaincu, qu'alors que Adam et Ève pouvaient se réjouir de ce jardin et de ses fruits et de la manière dont ils devaient nommer les animaux, nous pouvons avoir des moments de réjouissance, y compris, et cela pour moi, c'est un peu incompréhensible, y compris devant un GP de moto, ou alors un jeu vidéo. Ça, je comprends un peu mieux, je vais l'expliquer plus tard. Dans Genèse 1, Dieu nous rappelle que nous pouvons profiter de ses plaisirs dans notre vocation, celle de prendre soin et d'assujettir la création, d'avoir conscience de ce que Dieu nous confie en termes de responsabilité dans nos vies. Le plaisir que nous pouvons avoir dans nos vies, comme on le voit dans le jardin, se place toujours dans le cadre moral et dans le cadre fixé par Dieu. Et dans ce cas-là, on peut juste kiffer notre vie et remercier Dieu des nombreux bienfaits qu'il nous accorde. Mais on sait très bien que ce plaisir, lorsqu'il est hors de ce cadre, peut facilement être destructeur et mauvais. Comment le discerner ? J'aime beaucoup ce passage, Proverbe 24, versets 13 à 14. « Mon fils, mange du miel, car il est bon. » Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le miel, mais vous pouvez le remplacer par à peu près n'importe quoi. « Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, sache que la sagesse est bonne pour ton âme. » Peut-être que vous avez déjà entendu dans votre vie le fait qu'on a un cerveau qui se sépare en deux. Un cerveau émotionnel et un cerveau rationnel. Un cerveau gauche et un cerveau droit. Ben, je vous informe que c'est faux. Et qu'on le sait depuis des décennies. Donc si vous l'entendez dans des études supérieures, c'est triste. Mais c'est la vie de la psychologie moderne. Il faut souvent un demi-siècle pour mettre en place ce qu'on a vraiment découvert. Mais en tout cas, non, notre cerveau ne marche pas du tout comme cela. Et c'est intéressant parce que ce passage nous dit la même chose. Il n'y a pas à dissocier la question de nos émotions et la question de notre rationalité et de notre sagesse. Il n'y a pas à faire une différence entre ce qui est spontané, naturel, etc. et ce que l'on doit raisonner d'une manière intellectuelle. Dieu nous demande d'être toujours responsables à 100% des choix que l'on fait, autant dans la réjouissance que dans les efforts. Il n'y a pas une séparation à faire entre émotion et raisonnement. Et d'ailleurs, ce que vous appelez intuition, vous savez, il y a quelqu'un qui est hyper intuitif, qui dit des choses de manière spontanée, et c'est vrai, etc. Soyez sûr d'une chose, et qu'en fait, derrière l'intuition, il y a une forme de raisonnement. Et que, en fait, notre cerveau ne cesse de fonctionner avec simultanément émotion et raison en même temps. Lorsque vous faites des choix, il n'y a pas le choix de la raison et le choix de l'émotion. C'est toujours raison-émotion d'un côté, raison-émotion de l'autre. Parfois, on considère que le bonheur, la joie, le plaisir devraient être décorrélés en fait, de la raison et de l'intelligence, alors qu'en réalité, Dieu nous appelle à toujours prendre conscience eh bien, que ce sont deux éléments à prendre en considération. Un élément par rapport à cela. La question des plaisirs, de la joie et de la réjouissance. On se le dit souvent, et moi le premier, oh là là, j'ai tellement taffé aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin d'avoir un temps à moi, juste pour moi. J'ai pas envie de voir des gens, j'ai besoin de ma solitude, j'ai besoin de récupérer, etc. Je pense que c'est un mauvais usage du mot. Lorsqu'on utilise le mot « besoin », il est associé à la question de l'élément vital. On a besoin pour vivre, de manger, de boire, de dormir et de travailler. Tout le reste, c'est ce que l'on appelle des désirs. Quand je rentre et que je suis épuisé par mon travail, remplacez ce mot. Je désire me reposer. Je désire avoir ce moment à moi. Je désire me détendre devant une série, etc. Ça ne veut pas dire que le désir est mauvais, mais c'est juste à recontextualiser une question de hiérarchie et de ne pas mettre ses plaisirs au même niveau que certains besoins fondamentaux. Et surtout, pour nous, en tant que chrétiens, à faire une différence claire, et vous allez comprendre mon propos, du fait que notre besoin le plus important qui est au-dessus de tous, c'est Christ. Pourquoi Christ ? Parce que Christ est venu pour combler le seul besoin que nous avons par rapport à un Dieu qui est en colère, celui du pardon de nos péchés. Et c'est pour cela que se rappeler de Christ diminue l'intensité de nos autres désirs, parce que ça nous permet de mettre en perspective ce que Dieu a vraiment fait pour nous, pour ce seul besoin absolument vital vis-à-vis de notre Créateur, par rapport à tout le reste. Une vie équilibrée et intègre devant Dieu, c'est pouvoir recevoir les plaisirs comme des dons de Dieu, c'est pouvoir les estimer par rapport à notre sagesse, à notre intelligence, et enfin, c'est pouvoir les replacer dans une perspective plus large, et de ne pas se dire qu'à ce moment-là, c'est la seule chose qu'il m'est nécessaire, car en réalité, ce ne sont que des désirs, et non des besoins. Quelques éléments par rapport à la question de notre activité, par rapport à la question de notre activité, de notre travail. Comme je vous l'ai dit, je suis spécialisé dans le travail et la santé. Et du coup, j'accueille en cabinet, eh bien, un certain nombre de personnes qui est dans ce qu'on appelle un syndrome de burn-out, d'épuisement professionnel. C'est lorsqu'on tire trop sur la corde, à un moment donné, notre corps nous le rappelle et il s'arrête. Et dans 99% des cas, le schéma est toujours le même. C'est rare, c'est essentiellement des gens qui sont extrêmement motivés par leur travail, qui sont de bonne volonté, qui font beaucoup d'heures supplémentaires, qui font des efforts considérables et qui oublient que ce sont des créatures et qu'à un moment donné, on n'est pas sans limite et qu'on a une énergie qui est extrêmement limitée dans notre quotidien. Et à un moment donné, elles se trouvent piégées là-dedans par leur dévouement au travail et elles s'écroulent. Elles s'écroulent pourquoi? Je reformule. Elles s'écroulent par leur orgueil. Elles s'écroulent parce qu'elles pensent qu'elles doivent sauver les gens, parce qu'elles sont indispensables, parce qu'elles ne peuvent pas dire non, parce que sinon, bah, quel regard on va avoir sur cette personne? Et à 100% du temps, ces personnes recherchent essentiellement du succès, de la reconnaissance, de l'argent, de la légitimité ou du pouvoir. Ils oublient qu'ils sont limités, que notre corps a des limites et que l'utiliser sans pouvoir se reposer et se ressourcer le mène forcément à la perte. Et aujourd'hui, nous avons une culture du travail qui nous permet d'avoir un pourcentage de burn-out qui est le premier mondial en France et qui nous permet eh bien, d'observer aujourd'hui des taux d'absentéisme que l'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité au sein de nos entreprises. Est-ce qu'on devrait être fier par rapport à ça? Peut-être pas. Mais en tout cas, ça nous permet d'y réfléchir par rapport à notre rapport au travail et par rapport à la culture que nous implémentons dans nos entreprises. Pour nous, chrétiens, nous devons nous rappeler que c'est sans aucun doute parce que nous n'avons pas mis les limites nécessaires et que se relever sous-entend prendre des dispositions pour être vigilant sur parfois des signaux que l'on a ignorés. Vous savez, le burn-out, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est souvent un processus qui prend plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous entamez un travail, ben, au début ça va, vous avez de la réussite, vous êtes content, ça correspond à vos valeurs, tout roule. Vous avez de la satisfaction. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, la réalité du travail fait qu'en fait, il va falloir faire plus d'efforts pour pouvoir arriver au même résultat. Donc en fait, vous avez toujours une forme de plaisir, mais ensuite, il y a quand même un peu d'anxiété qui arrive. Okay? Vous êtes un peu stressé, vous êtes un peu plus irritable, quand vous allez aux toilettes, c'est moins clean que d'habitude, mais pourtant, vous y allez quand même, et malgré tout ça, vous avez quand même de la réussite. Donc du coup, vous continuez comme ça. Sauf qu'à un moment donné, ces efforts ne suffisent plus. Et lorsque ces efforts ne suffisent plus, là, vous arrivez dans un seuil où en fait, le plaisir commence à disparaître du travail. Et vous n'avez plus que de l'acharnement. Et vous n'avez plus que de l'anxiété. Vous avez du mal à dormir. Vous mangez plus ou moins. Vous êtes fatigué lorsque vous vous réveillez semaine après semaine. Et en fait, tous ces éléments-là, ça n'arrive pas du jour au lendemain parce que le corps a quand même une forme de résistance. Mais je peux vous parier ce que vous voulez, parce que ça arrive à 100% du temps, que lorsqu'il n'y a plus aucun plaisir et qu'il n'y a plus que de l'anxiété dans votre travail, vous lancez un dé à 10 faces et c'est le nombre de mois qui vous reste avant de tomber en burn-out. C'est moins d'un an. Lorsqu'on arrive à l'acharnement, c'est moins d'un an. Après, ça dépend des gens, évidemment. On est tous différents par rapport au travail et à la résistance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, la personne tombe. Le problème, c'est que bah, malgré tous ces signaux-là, l'être humain est borné, têtu et un peu orgueilleux. Et donc, on ne les écoute pas trop. On se dit que ça va aller mieux. On se crée de faux raisonnements. Et à un moment donné, les gens s'écroulent. On estime qu'en France, il y a un salarié sur trois qui est en risque de burn-out. Ça ne veut pas dire qu'il va y tomber, évidemment, mais ce sera le cas. Et on est dans quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et je pense qu'on a une vraie responsabilité en tant que chrétien de comprendre ce que c'est que notre vocation dans le travail. Je sais pas si vous avez remarqué sur ma tête, mais je n'ai d'origine ni de France ni de Suisse. Je suis de Corée du Sud. Et la Corée, elle a aussi quelques records. Elle a le record tous les ans du nombre de personnes qui meurent de crise cardiaque après avoir joué à un jeu vidéo trop longtemps. Je vous laisse l'info. Juste 3 secondes. Et Et bien sûr, pour faire honneur à ma patrie d'origine, je peux vous dire que j'ai dépensé quelques milliers d'heures aussi en jeu vidéo. Et j'étais très très bon, il faut bien l'admettre. Est-ce que le jeu vidéo est mauvais en soi? Je le crois pas du tout. Vous vous souvenez, c'est la question de la motivation que j'avais légèrement introduite auparavant. En jouant, moi, qu'est-ce que je faisais quand j'étais jeune? J'oubliais mes responsabilités. J'oubliais qu'un monde que je considérais comme trop hostile. Je me perdais dans des parties que je recommençais encore et encore. Et une chose est sûre, c'est que je ne répondais pas à l'appel de Christ. Je n'assumais pas mes responsabilités en tant que chrétien à ce moment-là, ni le fait d'être un disciple. Je préférais ma lâcheté plutôt que d'être intègre devant Dieu. Pourquoi est-ce que je suis tombé dans l'excès dans les jeux vidéo? Parce que le ressourcement, parce que ce qui devait être un divertissement, s'est transformé en activité. Et on va rester là-dessus pendant un petit moment. C'est lorsque ce ressourcement s'est transformé en activité. Et comment est-ce qu'on peut discerner cela dans la question de notre repos et de notre ressourcement? Parce qu'à ce moment-là, ce qui devait être juste un loisir s'est transformé dans une quête de performance égoïste. C'était plus juste un loisir où je m'amusais, c'était devenu une compétition, et en plus par rapport au monde entier. Je voulais être le meilleur, battre mes adversaires, je cherchais la performance, et en plus j'y arrivais, et donc vous imaginez le nombre de soleils que j'ai vu se lever au fur et à mesure de mes parties. Comment discerner cette transformation d'un ressourcement en activité? Voilà la question que je vous propose maintenant. Pour qu'un être humain puisse tenir sur la longueur, il doit effectuer dans sa semaine, je ne vais pas dire journée, mais en tout cas, il doit avoir un bon équilibre dans ces quatre différentes catégories. Et on va les passer, vous allez voir, c'est du bon sens, mais vous allez voir comme le bon sens, malheureusement, n'est pas si facile à mettre dans nos vies. Premier point, le repos physique. Le repos physique, il n'y a pas mille manières de le faire. Du sommeil, une alimentation plutôt équilibrée et une rupture de la sédentarité. Le sommeil d'abord. Le sommeil, les gars, pardon. Messieurs, dames. L'habitude. Le sommeil. Si vous entendez des vidéos YouTube, ouais les gars, je suis sûr, c'est possible, vous pouvez vous coucher à minuit, vous lever à 4h du matin, faire 200 pompes, lire 2 livres par jour, etc. Ça ne marche pas. Enfin, si, ça marche si vous voulez mourir très très vite, d'une crise cardiaque à 40 ans à peu près. Hein, en général, c'est le médian. Ça ne marche pas. Le sommeil, c'est génétique. Le sommeil, vous pouvez tordre ce que vous voulez, votre rythme de sommeil. Soit vous serez fatigué, soit vous vous réveillerez avant, mais cherchez pas. Vous avez un sommeil optimal que vous devez respecter sous peine d'avoir de tristes conséquences. Si vous diminuez, c'est facile à retenir. Si vous diminuez d'une heure de sommeil, très rapidement, vous perdez 10 points de QI. 2 heures, 20 points de QI. 3 heures, vous commencez à avoir des problèmes de santé qui peuvent arriver jusqu'à la crise cardiaque. Ok ? Le sommeil, c'est important. D'autant plus que vous, adolescents ou jeunes adultes, vous avez besoin de plus de sommeil que les personnes âgées ou des personnes comme moi, qui aussi est un peu âgée. Ça commence à venir gentiment. Donc le sommeil, c'est une contrainte biologique. Jouez avec ça et vous verrez, on n'y joue pas très très longtemps. Et en plus, les insomniaques vous maudissent, parce qu'en fait, eux, non seulement ils n'arrivent pas à dormir, mais en plus, ils ne peuvent pas réguler. La question de l'alimentation, là c'est pareil, hein. Et je ne vous demande pas de bouffer que des graines et de la salade. Hein. Mais par contre, réfléchissez notamment à vos régimes alimentaires à partir de 19h le soir. Je vais vous donner juste un exemple. Moi j'ai un problème avec les anecdotes, c'est que j'en ai beaucoup trop. Mais quand même, ça ne me sent pas trop mal là. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des symptômes dépressifs. Okay. Donc, troubles de l'humeur, tristes, etc. Dans les troubles dépressifs, il n'y a pas 10 000, en fait, on a un gros dictionnaire avec des symptômes, etc. Et parmi les symptômes, il y a augmentation ou diminution du sommeil, augmentation ou diminution de l'appétit. Okay. Et je vous jure que c'est mes deux premières questions à chaque fois. Allez, ok, comment est-ce que vous dormez? Et comment est-ce que vous mangez? Ah bah j'ai du mal à dormir. Ok, qu'est-ce que vous mangez? Ouais, je bouffe chips, coca et machin, je fais un gueuleton jusqu'à minuit. Arrêtez vos bêtises. On va changer ça. Je vous promets, rien qu'à changer ces deux choses, arrêter de manger n'importe quoi au-delà de 19h le soir et se coucher entre 22 et 23h, eh bien, honnêtement, on est sur au moins un tiers de mes symptômes dépressifs qu'on règle en deux séances. Parce qu'en fait, on croit que la dépression, c'est juste un truc dans notre tête. Alors oui, c'est un truc dans notre tête, mais parce qu'en fait, c'est un truc dans notre corps, de notre cerveau, certes, mais aussi de notre fonctionnement physiologique. Et enfin, le dernier point, c'est la rupture de la sédentarité. On est de plus en plus assis, que ce soit pour le travail, avec l'augmentation du tertiaire, donc des entreprises et des emplois de service, et aussi bah, pour vous, étudiants, le nombre d'heures que vous passez devant votre écran à bûcher, ce qui n'était pas du tout mon cas en étudiant, et en tant qu'étudiant, vu mes moyennes. On a un gros problème par rapport à ça, et ce qui provoque de nombreuses problématiques au niveau de notre santé. Quand je parle de rupture de sédentarité, je ne parle pas de sport. Je parle juste de lever nos fesses de nos sièges pour pouvoir marcher et rompre cette sédentarité qui est très mauvaise au niveau de nos articulations, au niveau de notre posture, au niveau de plein de choses. Je suis pas kiné, etc. Je vais pas aller plus loin que ça. La rupture de la sédentarité, c'est juste faire quelques milliers de pas et rompre régulièrement, eh bien, cette posture assise. Vous avez vu, je vous révèle pas des secrets de ouf en tant que psy là, hein. Sommeil, alimentation, rupture de la sédentarité. Je pense qu'à peu près 0% des personnes ici arrivent à respecter ce truc, moi y compris. C'est hyper compliqué, même si c'est du bon sens. Mais ce sont les seuls moyens que l'on peut avoir pour reposer physiquement notre corps. Pas de secret. Juste un équilibre à avoir et une recherche pour élaborer ces trois éléments. Le repos mental, ce qui est une différence. Repos mental, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres zones de notre cerveau que l'on utilise majoritairement dans notre quotidien. Le sport, l'activité manuelle, pleine conscience, méditation, je reviendrai sur les deux derniers. En fait, c'est comment se décaler de ce que l'on fait habituellement avec notre cerveau. Si vous avez des activités essentiellement intellectuelles, bah, évitez ensuite d'étudier l'astrophysique comme hobby. Parce que ce sera difficile de vous reposer durablement au niveau de votre cerveau. Et pareil, si vous faites du placo toute la journée, bah là, dans ce cas-là, eh bien, peut-être que vous pouvez faire peut-être une ou deux, un ou deux éléments intellectuels sur des sujets qui vous plaisent. Et le sport, et là pareil, je ne m'y connais pas plus que ça, mais en tout cas, on a des études qui montrent que le sport est très très bon pour eh bien, reposer notre cerveau. En d'autres termes, pour l'activer de la bonne manière, y mettre de bons neurotransmetteurs qui nous font du bien et évacuer les déchets que notre cerveau accumule au fur et à mesure de la journée. Repos mental. Okay? Le ressourcement psychologique. Lecture, activité créatrice, musique, jeux de société, jeux vidéo, séries télé, etc. Tout ce qui vous fait plaisir, quoi. Toutes les activités qui vous plaisent, qui vous font du bien, où vous avez plaisir à le faire. Par exemple, moi, j'évite de dessiner. Ma fille qui, au fond, pourra en témoigner, jouer au Pictionary avec moi, c'est une torture, quoi. Je dessine vraiment très mal, donc du coup, je fais d'autres activités pour me ressourcer, parce que si vous verriez les dessins d'animaux que je peux faire, bah, du coup, ça va vite me frustrer et m'énerver. Donc, c'est pas la peine, on va faire d'autres choses. Donc, c'est des éléments qui correspondent à vos valeurs, qui vous font plaisir, etc. Et donc, les jeux vidéo, c'est super cool. Okay? Si ça vous plaît, il n'y a pas de souci. Il y a des très très bonnes séries télé sur plein de streams différents. Pas téléchargées d'une manière illégale, évidemment. Ah, ça vous arrive jamais. C'est bien ça. Ressourcement psychologique. Donc, c'est pas une question de repos. C'est pouvoir stimuler notre cerveau de la bonne manière avec quelque chose qui correspond à nos valeurs. Et enfin, le ressourcement social, bah, c'est voir des gens. Et je mentionne, parce que j'ai déjà eu la question posée, des personnes que l'on apprécie évidemment. Bah, ça me fait rire parce qu'il y a toujours des questions comme ça et on n'y pense pas quand on fait des diapos comme ça. Et ça, c'est des choses, c'est des formations que je peux faire aussi dans le séculier. Et il y a la question, ah ouais, mais du coup, on doit se forcer à aller voir les gens. Enfin, ouais, ben bah, non. Si c'est des personnes que je ne peux pas blairer, ben bah, peut-être évite. Ou discute avec elles. Mais en tout cas, voilà. Ne fais pas un brunch si c'est pour te prendre la tête. C'est pas si facile ça non plus. Lorsque, après une grosse journée d'études, de révisions, de travail, vous rentrez rincé à 19h, et là vous avez un pote ou une amie qui vous appelle. Allez, viens, on sort ce soir, ça va être super cool, il y a plein de potes. resto, bar, ce que vous voulez. Avec vous, dans votre tête, le seul truc qui avait verrouillé votre cerveau, c'est Netflix céréales ou Netflix bière ou ce que vous voulez. Bref, un truc seul où vous n'avez pas à vous prendre la tête, c'est certes du ressourcement, etc. Et finalement, la personne vous dit ah, vas-y, fais pas le relou, sors de ta chambre, etc. Viens t'amuser avec nous. Et finalement, vous y allez. Vous vous rhabillez parce qu'il y avait déjà le plaid et tout ça. Et vous y allez. Ok ? Vous passez la soirée, vous rentrez. En général, qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on rentre de ce genre de soirée ? On a bien fait d'y aller. On a bien fait d'y aller. Alors peut-être que le lendemain sera un peu dur en termes de lever. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous a créés pour être en société. Et notre fonctionnement, le bon fonctionnement de notre corps est également corrélé avec la production de certains neurotransmetteurs qui ne sont produits qu'en présence d'autres êtres humains dans la même pièce. C'est fou dit comme ça quand même, hein. La nature est bien faite ou c'est Dieu qui a bien fait les choses? Et nous voilà avec quatre éléments indispensables pour tenir sur la durée. Repos physique, repos mental, ressourcement psychologique et ressourcement social. Sauf que ces éléments-là, il faut qu'on les questionne ensemble. Et vous pouvez y réfléchir par rapport à ce que vous faites. Hop là, pardon. Parce qu'en fait, la difficulté pour nous aujourd'hui, dans l'accumulation progressive de ces différents éléments, le risque que l'on a, c'est que nos motivations ne soient pas liées au repos ou au ressourcement, mais soient liées à l'activité. Nous devons questionner ces choses, et je vais vous en proposer une qui est, à mon avis, qui fait partie des gros enjeux de notre vie, la question de notre plan de lecture de la Bible. Qui a un plan de lecture de la Bible ? Un plan de lecture de la Bible. On est quelques-uns. On est beaucoup. Okay. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. On se devrait dire, waouh, trop cool, vivement ce moment, etc. Sauf que suivant les journées, c'est pas du tout le cas. Mais des fois, on le fait. Et on coche une case. Des fois, on coche une case pour nous-mêmes. Ou alors des fois, on coche une case pour les autres. Pour dire, hey, moi, je suis à jour sur mon plan de lecture. Et toi, t'en es où? Vous voyez la différence? La question de la motivation? La question des pensées que nous avons lorsque nous effectuons une tâche? Et vous savez, pourquoi est-ce que Jonathan dit que j'ai une certaine inimitié, en tout cas un certain décalage par rapport à Sigmund Freud? C'est parce qu'on sait depuis des décennies que l'inconscient n'existe pas. Wow. J'ai dit un truc et vous allez retenir que ça va être terrible. Tout c'est court, hein, c'est fou, hein. Non, le plan de lecture est vraiment un sujet qui est important. Et en fait, on peut toujours questionner nos motivations. Il n'y a rien qui ne soit pas accessible à nous lorsque nous effectuons une tâche. Bien sûr que c'est difficile. C'est-à-dire que lorsqu'on effectue notre quotidien, avec ces plannings que l'on a, on ne pense pas à chaque fois, ok, j'entame cette séance de sport, alors quelles sont mes motivations qui me viennent? Bien sûr que non, on fait jamais ça. On ne fait jamais ça. Mais vous pouvez y réfléchir maintenant. Et vous pourrez y réfléchir au fur et à mesure, là, dans les prochaines semaines, parce que souvent ce sont des activités récurrentes, de se dire, ok, comment est-ce que je m'embarque dans cette activité? Pourquoi est-ce que je fais du sport de cette manière-là? Le sport, c'est intéressant. Est-ce que je fais du sport parce que c'est bon pour ma santé et que, eh bien, on est redevable devant Dieu de la manière dont on traite notre corps? Ou alors, c'est parce que on aime bien dire qu'on a fait du sport? Ou alors qu'il y a des compétitions qui sont en cours? Ou alors qu'on aimerait bien poster certaines choses sur Instagram? Ou alors que du coup on aimerait bien ressembler à telle ou telle personne? Ou alors, trois petits points. Et vous voyez la différence? La question de comment est-ce qu'on transforme un repos mental en activité. Et comment, du coup, ce n'est plus du repos mental, mais une activité. Et donc une source de stress. Parce que si jamais j'arrive pas à soulever ce poids-là, qu'est-ce que les autres vont dire? Si jamais j'atteins pas cette musculature ou cette ligne ou cette silhouette-là, qu'est-ce que les autres vont dire? Ah, mais du coup, je vais être en retard sur mes publications Instagram. Qu'est-ce que les autres vont te dire? Etc, etc. Et il faut se questionner honnêtement par rapport à ça. C'est, parfois, et c'est bien de le faire avec d'autres personnes, évidemment. Mais on peut déjà faire ce travail tout seul. Et de se dire, comment est-ce que ces différents éléments, je l'associe à quelque chose? Comment est-ce que ces éléments, je peux l'associer avec une question de performance, une question de fuite ou une question de paresse? Lorsque je vous ai dit que j'ai joué pendant des milliers d'heures, ça semble fou des milliers d'heures quand même, hein, dit comme ça, à un jeu vidéo, c'était vraiment des milliers d'heures. Ouais, il y avait une question de performance parce qu'il y avait un petit niveau qui commençait à se faire, mais il y avait aussi une question de fuite, de ne pas vouloir assumer mes responsabilités. La peur de mes études et de mon avenir, bah c'est sûr que l'avenir dans un jeu vidéo, c'est cool, parce qu'en fait, c'est une partie très courte. Et après, on peut recommencer, etc. Et la question de la paresse. On a des responsabilités, on a tous des choses à faire, on a tous des responsabilités, on a tous des devoirs, etc. Et des fois, la flemme, quoi. Et où, du coup, eh bien, ce désir de faire un jeu vidéo devient plus fort que la responsabilité de devant Dieu, d'être intègre par rapport à nos responsabilités. Et vous pouvez réfléchir à tous ces éléments qui sont inscrits ici et comment est-ce que nos motivations peuvent altérer la véritable utilité de ces éléments. Et vous voyez, le plan de lecture, c'est pour ça que je parlais des méditations et de pleine conscience. C'est des choses, dans une certaine mesure même, où je ne suis pas spécialement contre au niveau anthropologique, et en tant que chrétien, mais on pourra en discuter. Mais le plan de lecture, ce que je trouve excellent par rapport à ce sujet-là, c'est que si on utilise cet élément de la bonne manière, et je crois que Dieu fait bien les choses et que ce n'est pas un hasard, c'est en même temps du repos mental, et en même temps du ressourcement psychologique. Mais du coup, comment ça se fait que pour ce plan de lecture, ça peut devenir une activité? Parce que bah, du coup, il y a un élément de performance, il y a une forme de piétisme où bah, il faut bien le faire, donc on le fait, mais on en retire rien. Pourquoi est-ce que cela devient une activité? Pourquoi est-ce que ça devient une case à cocher? Quelques éléments par rapport à ça. Peut-être que le moment n'est pas approprié pour lire votre plan de la Bible. C'est vrai, on va pas se mentir, et vous avez rigolé juste avant. Si on dit, ou alors si on envoie une notif comme quoi on a lu notre lecture de la Bible à 5h30 du matin, ah, il y a quand même un truc de fierté, hein, on va pas se mentir. Faut être honnête, hein, on peut se le dire, on n'est pas beaucoup là entre nous, hein. Il y a un truc de fierté là-dedans. Mais pas pour tous. Peut-être qu'il y a des gens qui se lèvent vraiment à 5h30 au niveau de votre chronotype. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous à 5h15 sans réveil. Vous êtes déjà réveillé, donc pas de problème par rapport à ça. Mais peut-être que pour certains, c'est une vraie torture. Et qu'en fait, vous le considérez comme une activité parce qu'en fait, tout le monde le fait le matin. Mais vous êtes éclaté le matin et que vous ne pouvez pas lire à ce moment-là. Donc, il y a déjà la question des circonstances. Est-ce que dans votre planning, les circonstances et le contexte est approprié par rapport à l'élément? Est-ce que je fais ce truc lorsque j'ai du temps à perdre, vite fait, comme ça, parce qu'il y a une forme de paresse à ce sujet-là? Et comment est-ce que je peux rendre, eh bien, ce moment agréable? Il n'y a pas 36 manières de le faire. Il y a déjà comprendre au niveau du contexte, est-ce qu'il y a des éléments qui sont vraiment handicapants pour vous, pour vraiment l'utiliser comme du repos mental et du ressourcement psychologique? Le chronotype est, je trouve, un des éléments qu'on peut ajuster. Mais il y a aussi la motivation avec laquelle on fait par rapport à Dieu en tant que chrétien. Connaître Dieu, connaître qui on est, être enrichi par la seule source de la vérité, être convaincu par ces éléments-là. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, par rapport à notre maturité spirituelle, par rapport à ce que l'on croit de Dieu, par rapport même à la saison dans laquelle on est. Mais il est bon de se les noter parfois, dans ces activités-là, de se rappeler pourquoi on les fait. Parce que très rapidement, dans notre quotidien, on va oublier pourquoi on les fait. Parce que notre cerveau, il va se dire, ok, bon, on le fait tous les jours, donc pas la peine de lui rappeler les motivations. Et donc, du coup, il va mettre ça dans un coin. Il va les faire disparaître de votre conscience. Alors, ça ne veut pas dire qu'il loge dans l'inconscient. C'est juste que ça devient automatique. Et du coup, vous allez oublier pourquoi est-ce que vous les faites. Et il est bon, périodiquement, de pouvoir se rappeler de pourquoi on les fait. Et du coup, Dieu nous aide aussi dans certains éléments pour pouvoir le faire. Et le burn-out, c'est souvent quand on enchaîne ces tâches d'une manière déshumanisée et lorsqu'on en perd le sens. Un des critères diagnostiques du burn-out, c'est que lorsque les personnes ont du cynisme et perdent le sens de leur travail. Je vous donne juste un exemple. C'est une aide-soignante qui est dans un EHPAD et qui doit faire un certain nombre de toilettes, okay, par heure. Et en général, dans les formations d'aide-soignante, c'est entre 20 et 25 minutes. Et en fait, ben, on leur demande dans des EHPAD parfois un délai entre 3 et 5 minutes vu le nombre de patients à la vie, en termes de toilettes. Et donc, la personne, au lieu de dire, eh bien, je vais faire la toilette de Madame Bernard, la pauvre Madame Bernard, je la martyrise combien de fois à l'année, je vais faire la toilette de Madame Bernard qui est en chambre 357, mais plutôt que dire ça, l'étonnante va dire, je vais torcher la grosse de la 357. Déshumaniser, perdre le sens des choses, perdre le sens de pourquoi on fait ce que l'on fait. Et ça, c'est important parce que ça nous arrive régulièrement. Parfois pour de bonnes raisons, mais souvent pour de mauvaises. Et donc de réactualiser le sens de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Parce que des fois, on enchaîne nos journées, en fait, on ne réfléchit même plus pourquoi on les fait. Aussi bien le travail que le sport, du divertissement, etc. Pourquoi je suis encore sur TikTok, quoi ? Pourquoi là, ça fait 4 heures, je suis encore dessus ? Je sais que ce n'est pas super bon pour ma santé, et pourtant je continue à la faire et je perds le sens, etc. On est souvent piégé par cela. On est souvent attrapé et piégé. Et on doit pouvoir, eh bien, réfléchir d'une manière proactive par rapport à ces éléments. Skincare, faire ses ongles, sport, ménage, on le transforme en activité car on estime qu'on doit le faire. Et souvent pour le regard des autres ou même pour le regard de nous-mêmes. Et donc on doit réfléchir à ces éléments-là. Vous voyez, tous ces éléments-là, dans l'absolu, ils sont bons. Autant le repos, le ressourcement que le travail. Sauf que c'est lorsque nos motivations changent qu'elles deviennent délétères. Si le sport est une contrainte pour vous, que vous devez le faire par souci du regard des autres et que vous n'avez plus aucune motivation biblique pour pouvoir le faire, bah, peut-être qu'il est temps d'arrêter en fait. Peut-être qu'il est temps de le mettre dans une perspective qui est différente. Le sport, c'est bon pour la santé. Le sport est voulu par Dieu. On est fait pour être actif physiquement. Donc c'est un truc super. Mais notre responsabilité, c'est notre intégrité devant Dieu. Comment est-ce qu'on éprouve notre intégrité devant Dieu par rapport à nos motivations et nos pensées ? 5 éléments pour réfléchir à cela. Comment est-ce qu'une une activité, un ressourcement, un repos a un impact sur mon temps, sur mon énergie, sur mon argent ? Triptyque facile, temps, argent, énergie. Et deux autres éléments. La question de l'isolement social, est-ce que cette activité ou ce ressourcement m'empêche de voir des personnes ? Et enfin, le dernier point, la question de notre intégrité devant Dieu, est-ce que les choses que je fais m'empêchent d'être intègre devant Dieu ou m'empêchent d'accomplir mes responsabilités devant Dieu ? Posez-vous ces 5 questions dans toutes les activités que vous faites durant votre journée et vous aurez sans doute des réponses par rapport à la manière dont vous pouvez agencer votre planning et peut-être changer certaines de vos activités ou de vos ressourcements. Jusqu'à quelle heure ? 18. Oh. Quelques éléments. Ah ouais, merci. On va terminer là-dessus. Par rapport à notre intégrité devant Dieu. La question de la reconnaissance active. Le monde, vous l'avez entendu, je crois, samedi matin, chaque atome de cet univers est corrompu par le péché. Pas un seul n'y échappe. Un monde corrompu par le péché, c'est un monde où il ne devrait y avoir que désolation, souffrance, malheur et mort. J'espère que depuis vendredi, vous appréciez ces moments-là et que vous éprouvez du plaisir, de la joie, de l'excitation, des bonnes choses. Tout cela vient de Dieu. C'est la grâce que Dieu nous accorde dans nos vies, mais y compris dans la vie de nombreuses personnes au sein de l'humanité. Donc, tous les éléments de joie, de plaisir que nous vivons ne sont que des grâces que Dieu nous accorde d'une manière mystérieuse, mais qui sont là. Les grâces de Dieu sont les exceptions. La souffrance et la mort dans un monde de péché devraient être la norme. Est-ce que le monde vu comme ça, avec ce monde vu de cette manière, on ne devrait pas remercier notre Créateur de toutes ces bénédictions qu'il nous accorde et qui ne sont pas automatiques? Ce ne sont pas des droits, ce sont des grâces. Et lorsque nous les considérons comme des grâces, alors ces moments de plaisir et de joie, on ne les utilise plus comme des consommateurs, mais on les apprécie comme des intendants. On ne les utilise plus comme des consommateurs, on les apprécie comme des intendants, parce qu'elles sont précieuses et elles ne sont pas automatiques. Ça, c'est la question de la reconnaissance. Est-ce que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous accorde? Mais nous devons aussi reconnaître, dans cette reconnaissance, nous devons aussi reconnaître que nous sommes limités, que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous ne sommes pas dans notre monde, et que par conséquent, nous devons reconnaître nos limites. Et heureusement d'ailleurs, parce que si chacun d'entre nous, on devait gérer un monde, pas ouf. Heureusement que c'est Dieu qui le gère dans son plan souverain. Le renoncement de soi. On a le droit de faire énormément de choses dans notre vie. Le christianisme est une religion de liberté. Pourquoi une religion de liberté? Parce que Dieu nous responsabilise dans ce que nous faisons. Dieu, il n'a pas fait du micromanagement avec Adam et Ève. Il leur a fait confiance parce qu'il voulait que ce soit des ambassadeurs qui aient leur volonté et assument leur responsabilité. Ça s'est gâté, mais on voit le regard que Dieu porte sur nous. Mais du coup, par cette responsabilité, nous devons réfléchir à discerner et à être sages dans ce que l'on fait, dans les loisirs et les choses dont on profite, et parfois accepter à renoncer à certains bienfaits qui pourraient être devant nous. Cela nous permet d'éviter, dans nos discours, de se dire « j'ai droit à ça, puis je mérite ça, puis je veux ça ». Et ça, c'est un excellent moyen de pouvoir nous protéger face aux idolâtries modernes, face à la dépendance, face à beaucoup de choses qui malheureusement sont liées au péché. Enfin, la générosité. Vous imaginez en train de marcher dans la rue et votre sac est ouvert. Et il y a des choses qui tombent de votre sac. Il y a quelqu'un derrière vous qui ramasse des affaires, qui vous interpelle et qui vous dit « Hey, vous avez fait tomber vos affaires, je vous les ai ramassées. » Vous lui serrez la main, super content, etc. Comment est-ce que vous sentez à ce moment-là? Vous vous sentez bien. Si vous avez fait l'acte de générosité, vous vous sentez bien. Vous observez cet acte de générosité, vous vous sentez bien. Qui est-ce qui a le permis? Okay. Oh, wow. Plus que ce que j'aurais cru. Vous êtes en train de conduire sur une ligne droite et vous avez une moto derrière vous. Personne. Qu'est-ce que vous faites généralement? Vous décalez. Il passe. Il sort à bas. Qu'est-ce qu'il fait généralement? Comment est-ce que vous sentez à ce moment-là? Je reformule, vous kiffez votre race. Hein? On se sent super bien. Ok? Notre corps est calibré pour faire des actes de générosité. Vous vous rendez compte ce que je suis en train de dire? Notre corps est créé pour faire des actes de générosité. C'est fou quand même. Comme la création, elle est bien faite. Et comme elle correspond à ce que la Bible dit. C'est fou comme les psychologues d'aujourd'hui découvrent ce que la Bible a toujours dit depuis la nuit des temps. La générosité. La générosité, je vous donne aussi un autre élément. Il suffit de 7 minutes. 7 minutes, je ne sais pas vous, mais c'est même pas le temps que je passe aux toilettes. 7 minutes. 7 minutes d'écoute active en face de quelqu'un pour que la personne en face de vous qui parle ait un sentiment de réduction des symptômes dépressifs et anxieux de plus de 30%. 7 minutes. C'est pas beaucoup, hein, 7 minutes. Hein. Je veux dire, on pourrait les compter assez facilement. 7 minutes. C'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Et pourtant, est-ce qu'on le fait? C'est un vrai défi aujourd'hui. On est dans une culture individualiste. Et j'aimerais préciser par rapport à ça. C'est pas qu'on est plus égoïste. C'est qu'en fait, on a eu une telle évolution au niveau de l'industrialisation, de l'automatisme, etc., qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus les choses seules qu'auparavant. Avant, il fallait du monde pour pouvoir aider, pour construire ça, alors que maintenant, il y a tellement d'automatisation. Et l'IA en est un autre exemple, qu'on peut faire beaucoup de choses tout seul. Et c'est un vrai risque, parce qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul. On a besoin, eh bien, de personnes autour de nous. Et enfin, le repos biblique. Le repos biblique, il est toutes les semaines. Pensez-y. Et le repos biblique, le sabbat, ce n'est pas de l'inactivité. C'est un jour consacré à l'Éternel pour le remercier et se rappeler de ce qu'il fait dans nos vies. N'est-ce pas le bon moment pour évaluer nos motivations semaine après semaine? Être proactif dans la manière dont on peut éprouver, eh bien, notre manière de vivre, nos motivations et parfois le risque à ce que le repos et le ressourcement se changent en activité. Bah, Dieu nous propose une journée pour pouvoir le faire. Une journée devant Dieu pour réfléchir à ces éléments-là. Et en plus, une journée, franchement, éprouver nos motivations, ça vous prend 5 minutes. Hein. Non, mais, et Dieu nous demande une journée. Et ça aussi, je vous livre une espèce de perméabilité entre le monde scientifique et la Bible. Dieu a prévu un repos hebdomadaire. Je suis sûr que ça ne vous viendrait jamais à l'idée que le dimanche soir, on est en Suisse, vous mangiez 5 litres de fondue au fromage et 8 baguettes en vous disant « comme ça, je pourrais ne plus manger pendant 5 jours ». On est d'accord que c'est ridicule? Ok? Alors peut-être qu'il y en a qui ont des gros estomacs, mais a priori c'est un peu ridicule, ok? Eh bien figurez-vous qu'on fait tout ça avec nos vacances. On se dit « ok, je tire un peu sur la corde, mais là cet été genre 3 semaines de vacances, comme ça, ça va aller mieux, je vais vraiment déconnecter, me reposer, pouvoir bien repartir avec l'année scolaire ». Ça ne marche pas du tout. Le nombre de semaines de vacances est complètement décorrélé de l'épuisement professionnel. C'est fou quand même. Ce que l'on a par contre vu, et ce que la Bible dit encore, c'est fou, c'est qu'en fait, lorsque vous arrivez à prendre régulièrement, et plusieurs fois par mois si possible, un vendredi, eh bien en fait ça fait chuter la prévalence de burn-out. Je crois que c'est 23 ou 26%, un truc comme ça, un truc énorme. Okay? Pourquoi? Parce que nous sommes créés pour avoir un repos hebdomadaire. Et donc, considérez bien cela aussi dans la manière dont vous gérez vos activités. Nous sommes faits pour avoir un repos hebdomadaire. Reconnaissance, renoncement, générosité et repos. Voilà la belle écologie du cœur que je vous propose en termes de réflexion. Pour que notre planning ne soit pas le reflet de nos idoles, mais soit le reflet de la manière dont nous sommes des bons intendants du temps que Dieu nous accorde sur cette terre.